your expectations.
Comme à l'impression, a fait une interface par page. La page d'accueil,
HSBC's international premier service. When you move countries, we'll help set up your mortgage, bank account and credit cards before you leave. So you can start your new life as soon as you've left your old one. HSBC Premier helps you get more out of the world from the world's local
Alors,
bank.
Point suivant, c'est
Tabac,
de mettre en avant la
handmade
qualité,
Italian elegance. Number one for business people.
J'en parle. Alors, j'ai une façon initiale. Une façon...
Welcome back. You're watching World News Asia live from Hong Kong. Let's bring you up to date now on business. And Barclays Bank is the latest bank to reveal the extent of losses on risky mortgages. But it turns out the write-down's not as bad as many had expected. Britain's third biggest bank says it's booked a loss of $2.7 billion on subprime mortgages for the third quarter. That's after denying last week it was about to announce it was writing down more than $10 billion worth of bad debt. Barclays made nearly $4 billion in pre-tax profits so far this year. Let's see now how investors are reacting to that news. It's over Malika Kapoor at the London Stock Exchange. Hey Malika, I guess investors quite happy to hear that news from Barclays.
Well, it looked like they were happier at the start of the trading day, Andrew, because Barclays share price jumped at the very start of the trading session. It was up as much as 6% when we first got news of Barclays' write-off not being as severe as the market was expecting. Since then, as you can see, Barclays has given up some of its gains and its share price is up 1% only at the moment, after being up 5-6% earlier on. But Barclays' share price has had a pretty choppy couple of weeks. It lost 15% over the last month just on market rumors and speculation that its losses would be actually a lot worse than the actual numbers which we saw today. So Barclays at the moment still in positive territory, up about 1%. Banking stocks, though, the rest of them under a lot of pressure. The same old concerns about write-offs and losses associated with the U.S. subprime market. Barclays literally the only banking stock which is gaining today. Also in the news today is Iberia, the Spanish airline company, and Iberia has confirmed that it's received a new takeover approach worth $5.5 billion from Gala Capital, and Iberia's share price jumped 4% on the news. Its shares were then suspended.
Qui est plus pertinente que ce qu'il a trouvé dans un premier point. Ah oui, j'ai pas dit ça au début, mais je reprends quelques points de Samuel et de Michel. Savoir dire non aux clients. Alors, il faut argumenter, bien sûr. Et bon, je mets en dernier recours. Bon, c'est sûr que si le client en question est insensible à votre argumentation, bon. Après, vous faites le choix de faire le site ou pas. Ça dépend de la motivation que vous avez à faire le site. Si c'est un projet intéressant, vous le faites et vous essayez de concilier votre approche à vous et celle du client. Et dans le cas contraire, ben, dites non. Alors, côté jardin, c'est pour ce qui concerne l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, c'est l'internaute. Alors, pour mieux comprendre l'utilisateur, il faut resituer un peu son environnement. Donc, l'utilisateur, déjà, doit d'abord appréhender son outil informatique, c'est-à-dire son ordinateur, le matériel, donc, et les fonctions d'environnement de travail, donc son système d'exploitation. Et ensuite, il doit appréhender son outil logiciel Internet. Donc, j'ai cité Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, Conqueror, etc. Et il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'il se connecte à Internet et qu'il arrive sur un site, à chaque fois, il doit réadapter sa vision et son mode de fonctionnement d'utilisation du site. Donc, j'avais un exemple assez frappant. J'ai une amie qui a pris des cours sur Word et qui s'est décidée à acheter son ordinateur, donc. Et elle m'a appelée en me disant, bon, ben voilà, j'ai acheté mon ordi, est-ce que tu peux venir me le brancher, donc je lui fais les branchements, je monte le PC, je lui installe sa lapbox, son imprimante. Et après ça, je lui explique quelques manipulations sur l'ordinateur, comment aller chercher ses mails, notamment. Et apparemment, tout se passe bien. Et je rentre chez moi. Et le soir, elle me rappelle. Et elle me dit, Myriam, je comprends pas. J'arrive pas à aller chercher mes mails. Je dis, oui. J'allume l'écran et il me met no input. Donc, je dis, bah, écoute, c'est certainement que j'ai du mal branché l'écran. Donc, tu pousses la prise et tu visses les petites vis et ça devrait le faire. Il m'a dit, non, ça marche toujours pas. Donc là, je lui pose quelques questions. Et en fait, il s'avère que la copine en question ne savait pas allumer l'ordinateur. Donc, ça résume un peu à la situation de l'utilisateur. C'est-à-dire que tout s'apprend et faut appréhender les choses l'une après l'autre et rien n'est jamais évident. Pardon. Alors, pourquoi vient-il sur Internet ? Il y a une réponse qui est une seule réponse à 98%, c'est « il cherche une information ». Et l'information, elle la veut rapidement, parce que l'internaute, c'est un homme pressé. Il veut les choses vite fait. Donc, l'information trouvée doit être pertinente par rapport à sa recherche. Si ce n'est pas pertinent, il s'en va. Et pour ça, on a des outils qui permettent de mieux connaître les recherches qui sont faites par les internautes et qui font que l'internaute arrive sur le site. Donc, en général, c'est les outils de statistique où vous avez la liste des mots-clés qui sont tapés dans les moteurs de recherche. Vous avez aussi, ce qui est intéressant, les pages par lesquelles ils arrivent et par lesquelles ils sortent. Donc j'en ai cité un, qui est PHP MyVisit, qui est gratuit. Et CrawlTrack, c'est pas tout à fait la même chose, c'est un logiciel qui permet de surveiller l'activité des robots sur un site. Donc, ça a un peu le même but, dans le sens où il va répertorier les mots-clés, les URL, non pas vu de l'utilisateur, mais du robot, c'est-à-dire Google, les moteurs de recherche. Il y a un point aussi sur l'utilisateur qui est important, c'est qu'avec le web 2.0, l'utilisateur est devenu aussi décideur et donc demandeur des technologies auxquelles il a lui-même accès grâce à son blog, son site et tout ce qu'il peut avoir lui-même sur le net. Et ce qui le rend beaucoup plus exigeant sur le contenu, la forme et les fonctionnalités. Alors, les solutions possibles, il n'y en a pas 36 000. Et puis, c'est des solutions, faut y réfléchir, mais ce n'est pas forcément évident à mettre en place et ce n'est pas forcément pertinent d'ailleurs. Alors, d'abord, écouter son utilisateur en laissant toujours à portée de main l'opportunité de s'exprimer. Donc, ça peut être une adresse mail que vous laissez bien en évidence. En dessous du menu de navigation ou en bas de page. Une autre idée aussi, c'est de mettre... Moi, j'ai, sur tous mes sites, il y a une page accessibilité qui répertorie les manipulations à faire pour utiliser les access keys, les tables index. Et ce qui serait intéressant aussi sur cette page, c'est de laisser en haut de page une adresse où l'utilisateur qui accède à cette page puisse répondre ou remonter des informations par rapport à son utilisation. Est-ce que je suis claire ? Alors, ça, c'est une fausse bonne idée. Donc, je l'ai mise et après réflexion, je me suis dit que c'était pas bien. Donc, faire l'éducation de son utilisateur. Donc ça apparaissait donc comme un bon point, mais en fait, vaut mieux éviter de compter sur l'utilisateur pour qu'il réagisse lui-même. J'ai mis que l'utilisateur lambda n'est pas forcément un utilisateur moyen. Alors, il y a peut-être des poils qui vont se hérisser. Pour moi, l'utilisateur moyen, c'est ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire c'est un utilisateur qui maîtrise son environnement de travail. Donc, qui connaît les principales fonctions de son navigateur, de son système d'exploitation, et qui sait allumer son ordinateur. Oui, puis ça pose aussi le souci que l'internaute veut rapidement l'information, et si à chaque site il est obligé de lire la notice pour l'utiliser, il s'en va, il abandonne. Donc ma cabane à outils. Outils de jugeote. L'écoute et la patience sont mères de grandes vertus. Donc, écouter son client, bien écouter son client, le laisser aller jusqu'au bout de ses demandes, même si vous n'y adhérez carrément pas, mais il faut le laisser aller jusqu'au bout, vous l'écoutez jusqu'au bout, et après, ça vous permet de contre-attaquer. Et puis la patience, oui, il en faut. Ça évite de s'arracher les cheveux. Un deuxième point, c'est intégrer un ergonome dans la chaîne de création d'un site et le placer au début de celle-ci. Au secours. Oh. Ah, c'est une ergonome là que j'ai dit. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ergonome, c'est son métier. Il étudie les utilisateurs et donc il est plus à même de conseiller une interface adaptée. Et c'est marrant, j'allais ajouter quelque chose, mais il a dû zapper. Il y a une autre personne aussi qu'il faudrait placer en début de projet, c'est le référenceur. Je travaille toute seule, je suis travailleuse indépendante, donc peut-être qu'en agence web, c'est pas pareil. Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que le référenceur, il va penser à tout ce qui fait le référencement, c'est-à-dire trouver l'information, je vais y arriver, la plus pertinente et le contenu le plus pertinent dans le site. Il peut aussi conseiller en termes de contenu ou d'organisation du contenu. Bon, avoir un contenu clair et structuré, Alors, c'est pas seulement l'information pertinente, c'est avoir des titres, avoir des paragraphes, H1, H2, H3, comme l'a dit Michel tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un chapeau, le contenu et une conclusion. Donc ça, en général, l'accessibilité, ça aime bien, puisque j'ose lire ces informations. Il y a une boîte qui permet à l'internaute de récupérer les titres qui figurent dans la page. Donc c'est important de savoir. Enfin, il sait à l'avance ce qu'il va lire. Installer des navigations parallèles, donc fil d'Ariane, bouton retour, mais à bon escient. Sachant que si vous avez un contenu clair et structuré, vous n'avez pas besoin de ces navigations parallèles. Alors, les outils techniques. Alors, vous pouvez installer des extensions. Alors là, ça s'adresse plutôt aux techniciens. Désolé. Intégrateurs, développeurs, référenceurs aussi. Installer des extensions qui simulent un lecteur d'écran comme Fang Readers, Yellowpipe ou Links Viewer. Et j'ai mis Quick Local Switcher. Donc moi j'utilise plutôt Fang Reader, sachant que ce sont des extensions pour Firefox et j'en connais pas beaucoup pour Opera. Désolée. C'est des extensions qui assistent en fait les concepteurs Par contre, sur Opera, on a la Web Developer Toolbar. Ah oui, il me semble que j'avais mis. Voilà, Fangs, c'est ça, pardon. Donc, Fangs, en fait, c'est un émulateur de JAWS. JAWS, c'est un lecteur d'écran qu'utilisent les personnes aveugles. Donc, je ne sais plus, j'ai pris Yahoo France, là. Donc, il va commencer par donner les en-têtes. Donc, ce qu'il appelle les en-têtes, ce sont les balises de titres. Donc, H1, H2, H3. Ensuite, il va vous dire que là, il y a 166 liens sur la page. Donc, vous pensez bien que... une personne qui arrive sur un site internet, qui cherche une information, il ouvre sa boîte de liens sur JAWS et JAWS lui dit il y a 166 liens, il y a un petit problème pour lui. C'est assez rebutant, surtout si les liens sont mal intitulés, d'ailleurs. Donc en fait, ce qui figure en bleu, ce sont les niveaux de titres. Et ce qui figure entre les deux, c'est le contenu et là c'est pas, vous avez les liens et le contenu là. Alors vous voyez bullet, à chaque fois ces bullet correspondent aux listes, donc ce sont les puces et là il y en a un certain nombre. Donc ça, ah oui, Okawa, c'est bien Okawa. Okawa, c'est une extension aussi pour Firefox, mais c'est aussi un validateur en ligne. Et ça a été développé par Urbilog, je crois, et notamment par Denis Chen. Je ne sais pas s'il est là. Donc Okawa, lui, vous affichez donc le site que vous voulez tester dans Firefox. Et ensuite, vous pouvez auditer cette page. Donc, vous avez le choix entre Okawa, le WCAG ou l'ADAE. Donc, les trois références pour l'accessibilité. Et il vous donne des indications sur les erreurs techniques. Donc, le souci de ces extensions, c'est toujours technique. Il n'y a rien qui vous dit que ergonomiquement, c'est praticable. Donc voilà, donc vous auditez et puis après elle vous affiche toutes les erreurs. Ah oui, j'ai quand même mis Opera. Parce que j'utilise Opera plus que Firefox. Et donc ça c'est la Web Developer Toolbar sur Opera. Donc vous avez plusieurs. C'est la même que sur Firefox avec plusieurs onglets qui vous permettent de désactiver les styles, désactiver les images. Valider la page, que ce soit en HTML ou CSS. Utiliser les validateurs en ligne, donc ceux du W3C. Bon, je n'ai pas mis d'URL, ça se trouve. Donc W3C, vous avez le validateur XHTML ou CSS. Il y a un autre validateur qui n'est pas très connu, c'est Accès pour tous. Donc là, j'ai fait une copie de la page. Il suffit de taper l'URL. En fait, il va scanner le code et il va vous... Donc, vous faites soumettre. Et on arrive sur la page de résultats où vous avez en haut, il vous dit, voilà, niveau A, il y a tant d'erreurs et tant d'avertissements. Et après ces points, il vous redonne le code de la page. Et dans le code, il va il va mettre en orange ou en rouge, attention, niveau 3, ceci ne correspond pas, n'est pas bon. Enfin, il va vous donner. J'ai presque fini. Il va vous donner l'erreur, en fait. Ensuite, Cynthia Says, il y en a d'autres. Il y a beaucoup d'autres validateurs. D'ailleurs, je crois que sur le site du W3C, il y a une page. Ou une rubrique qui donne une multitude de validateurs. Opquast, alors je suis désolée, j'ai pas de copie d'écran. Opquast, c'est un projet collaboratif, ouais, j'ai mis ça, gratuit ou payant, ça dépend quelle formule vous choisissez, et qui récapitule les bonnes pratiques du web et qui permettent ainsi de tester et suivre l'évolution de la conception. Donc c'est bien parce que vous êtes une équipe, vous avez un chef de projet, un graphiste, un intégrateur, et vous pouvez tous vous connecter sur l'interface du site que vous concevez, et chacun voit l'évolution par rapport aux points qui sont validés par les différentes personnes. Alors, ouais. Après, en code, on a jQuery, Ajax et Ajax. Donc, j'ai mis un point d'interrogation parce que ça reste du JavaScript évolué. Et donc, j'ai mis qu'il fallait faire attention à ne pas abuser des ressources côté client. Il y a un point, moi, qui me revient souvent dans la figure. C'est que, alors j'ai mis l'attribut blank. L'attribut blank, c'est un attribut qu'on met à la balise de lien. Et quand cet attribut est indiqué, quand vous cliquez sur le lien, une autre page s'ouvre. Et quand c'est bien utilisé, c'est parfait. Seulement, certaines personnes en abusent en mettant des pop-up. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en XHTML strict, en fait, cet attribut est proscrit et certains clients et même utilisateurs ne comprennent pas pourquoi c'est proscrit. Donc, en général, je leur explique. Et en fait, j'ai trouvé avec jQuery, il y a un petit script qui permet de le faire et sans que ce soit désactivé avec JavaScript. Et en plus, ça valide. Vous avez aussi les listes de diffusion sur les sujets de l'accessibilité. Donc, il y a Access Tech qui vient de se lancer. Et vous avez aussi bon, le RGAA. Vous en avez d'autres. Donc là, j'ai mis le site du référentiel. Hop. Les réflexions comme ça. Ça, c'est des réflexions que je me suis faites et qui sont à méditer. Pas forcément... Enfin, voilà, vous prenez pas. C'est donc faire appel au centre de rééducation pour les tests, pour faire des tests utilisateurs, mais il faut que le panel de personnes qui testent en fait soit représentatif des utilisateurs. Installer visiblement un espace d'aide pour tout le monde. Donc ça reprend un point que le suggestion @mail, c'est-à-dire laisser un endroit où vous donnez des manipulations spécifiques sur le site, mais c'est un peu comme la notice, c'est à prendre ou à laisser. Ah oui, accepter ce que les autres membres de l'équipe ont à vous dire. Il m'est arrivé, donc là je mets le conseil général des admins, j'ai fait l'intégration pour ce conseil général il y a un an et demi. Et avec mon intégration, donc il y avait 14 pages que j'ai intégrées, et avec l'intégration, j'avais mis 2 pages de recommandations, aucune n'a été suivie. Donc ça fait plaisir. Donc voilà le site. Et d'ailleurs, ils ont changé parce qu'ils étaient sous SPIP, et là, ils sont passés à SPublish. Et mon intégration, whoop, a dégagé. Ils ont gardé une seule chose, c'est mes tabs index, et encore, toujours avec mes recommandations, j'avais précisé. Dynamique les tabs index, c'est possible. Eh ben non, ils n'ont pas fait. Donc ils ont gardé ça, mais toujours avec des tabs index vides. Donc les outils de lecture. Alors je vous ai donné quelques bouquins. Donc il y a Ergonomie du logiciel et design web. Un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Internet, donne-moi ce que je veux. Donc c'est 60 navigations qui sont étudiées en donnant les points positifs et négatifs pour l'accessibilité et le référencement. CSS, bah les classiques, hein, CSS d'Eric Meyer, CSS2 de Raphaël Gotter. Il y a des jaloux. Créer des sites web accessibles pour tous. Je crois qu'il date de 2003 celui-là, mais il est toujours en cours. Bon, les livres de Jacob Nielsen, voilà. Bon, et des lectures numériques. Alors, Pompage, Open Web, Ergolab, Tuto Web, Ergonomic Web, Laurent Denis. Fred Cavaza, Damien Onfroy, Sébastien Delors, et le site et le forum d'Alza Création. Et en anglais, vous avez List Apart ou Smashing Magazine. J'ai peut-être... En attendant que ça pousse. Ben, la solution la plus simple et la plus rentable à long terme, en fait, c'est de mettre en avant l'utilisabilité, donc, qui concilie accessibilité et efficacité, et pour ça, faire appel à un ergonome spécialisé dans le web. Donc ça, c'est la solution là, qui me paraît la plus pertinente. Bon, pour rigoler un coup, j'ai mis un lien, mais par contre, le lien ne se fait pas. Donc, quand vous aurez le slide, vous irez voir, c'est une animation flash où on a deux concepteurs de sites, et en fait, c'est les 10 points qu'il faut dire ou qu'il ne faut pas dire au client. Bon, voilà. J'ai fini.
Merci.
Marie.
Alors, je vous propose de passer aux questions. Ah, alors, quelqu'un qui va avec les micros, peut-être.
J'ai été très vite, j'ai l'impression. Oui. Bonjour.
Bonjour. D'abord, ben, merci. La présentation sympa. Ça fait plaisir de voir un peu le point de vue d'un indépendant et un petit peu des petites expériences du quotidien. J'ai une petite demande de précision sur les outils de lecture par rapport.
Quels outils de lecture
Sweatshows, des lectures d'écran. Ma préoccupation, c'est d'avoir. J'ai essayé d'utiliser Jaws.
Oui, moi aussi.
Bon, moi, je suis un techno débile, c'est-à-dire que tout le monde croit que je sais me servir des machines, mais en fait, dès qu'il y a 3 boutons, je ne sais plus quoi faire. Et quand j'ai commencé à essayer de me servir de Jaws, j'ai trouvé ça très compliqué. Mm-hmm. Et ce que j'aimerais trouver, c'est la possibilité de pouvoir simuler un petit peu, moi, à mon niveau, l'expérience d'un utilisateur de Jaws. Et je dois avouer que j'ai échoué dans cette tentative. Est-ce que les plugins sont peut-être plus simples
ça
et donner vraiment une idée précise qui soit utile justement à se faire une idée de l'expérience utilisateur d'une personne qui veut utiliser le lecteur écran.
Ça donne une idée, mais vaut mieux passer par Jaws et si possible voir un utilisateur Apple le faire. Il y a une vidéo que Tristan Nito avait postée sur son blog et on en parle. C'est le père de Christophe Rousseau qui est professeur à la fac de Nice et son père donc est aveugle et il a filmé son père qui utilise son ordinateur avec Jaws et c'est intéressant de voir le décalage de l'idée qu'on peut se faire et de ce qui se passe vraiment et c'est super impressionnant de les voir surfer parce qu'il va très vite, il va même plus vite que nous je pense. Et d'où l'utilité de certaines choses techniquement, genre l'intitulé des liens. Avant, je mettais aller sur la page contact, par exemple, aller à l'accueil. Et en fait, j'ai un copain qui est aveugle et il a surfé sur mon site et il ouvre sa boîte de liens et là, j'ai eu un gros choc, le choc de ma vie, je pense que je me suis dit au secours. Il a surfé dans la boîte de liens et en fait, je ne me rendais pas compte, mais il va très vite. Donc, il utilisait les flèches pour passer d'un lien à l'autre et en fait, ça faisait aller, 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 aller. Et là, vous dites, ah, j'ai loupé quelque chose, j'ai loupé un épisode. Donc, du coup, maintenant, je mets contact, aller à la page.
Enfin, ça, c'est l'expérience. Juste une précision pour la vidéo, envoyez-nous un mail. Moi, je suis là. Envoyez-nous un mail, on vous fera suivre l'URL si ça vous intéresse.
Moi, je peux retrouver ça et...
C'est sur l'université de Nice, unis.fr/tis/quelque chose. Enfin, on a l'URL, donc on vous la donne. Elle est sur YouTube ? D'accord. Voilà. On va alors chercher l'université de Nice aveugle. Un truc comme ça.
Oui, ou sur le blog de Tis.
Je voulais faire un commentaire et une question. Commentaire par rapport à Jaws. Je suis Charles McCartney-Neville, je travaille chez Opera. Mais je travaillais avec le Wave de W3C trop d'années. Le problème d'utiliser Jaws, par exemple, c'est d'une des lecteurs d'écran. C'est un logiciel très compliqué. Et ce qu'on trouve, c'est comme nouvel utilisateur, c'est vraiment difficile à comprendre comment les utilisateurs fonctionnent. Si on regarde une vidéo, si on cherche une personne pour tester, ça donne une idée. Et il y a un grand rang d'utilisateurs avec connaissances diverses. C'est quelque chose, il ne faut pas dire « oui, j'ai testé, je comprends comment ça marche ». La seule chose que j'ai appris après 10 ans, c'est que j'ai plein de choses à apprendre.
Je suis d'accord.
Comment les utilisateurs fonctionnent qu'avec JAWS, avec Windows Eyes ou avec un autre lecteur, avec un outil de magnification. Il y a de plus en plus des choses qu'on réalise, c'est différent. Mais ça vaut la peine de regarder les vidéos. Si on a la possibilité de parler avec les gens. En fait, les simulations sont, moi je trouve qu'ils sont utiles. Et le plus que tu peux en trouver, le meilleur. Parce que ça donne une idée des différences. La question.
D'accord.
Comme utilisateur d'Opera, est-ce que vous avez utilisé le mode auteur-utilisateur? Non.
Ah non, le lecteur,
non, non, il y a un mode, c'est pas très,
ah oui,
très clair.
Ah oui, désactiver les styles.
Oui, ouais, pour activer les styles. Ouais. Et il y a un outil qui s'appelle HERA, H-E-R-A. Sa première version s'était basée dans une liste de, je sais pas, 50 ou 60 feuilles de style qu'on pouvait appliquer pour montrer des aspects d'accessibilité ou des problèmes une après l'autre.
Je me souviens plus, hein?
Donc ça, c'est notre possibilité. Et la liste des outils, c'est W3... Oui, c'est ça. La liste des outils, c'est w3.org/way, W-A-I, /ER/tools, T-O-O-L-S. Et c'est une liste énorme.
Donc, je voulais donner une précision. L'utilisateur dont je parlais, alors le père de Christophe, c'est un très bon utilisateur. Mon ami, c'est un utilisateur moyen de JAWS. Il sait très mal utiliser JAWS. Et pourtant, ça fait 15 ans qu'il est aveugle, mais c'est pas son. Donc, c'est vrai qu'il faut varier le panel, parce que sinon. Varier le panel, pourquoi? Parce que sinon, on se fait une idée fausse et on va dans. Tout de suite, le concept est mauvais.
Oui, alors c'est une semi-question pour répondre un peu côté utilisateur, comment on arrive à tester un peu toutes les interfaces. Et j'en profite pour parler des forums, parce que moi ça m'a beaucoup aidé, des forums comme AccessiWeb, où on arrive à avoir la vie, on peut faire tester des pages, faire tester des sites, et là on va avoir plusieurs plateformes qui ont testé Mac, JAWS, des lecteurs d'écran qui peuvent même fonctionner sur Linux. Et donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était pas vraiment une question, mais comme on est du côté utilisateur, on peut pas simuler toutes les interfaces, c'est pas possible. Donc, ni tous les systèmes d'exploitation. Et donner la parole aux utilisateurs, je trouve que ça reste maintenant dans la page accessibilité, avoir une adresse mail pour soit des techniciens, soit des utilisateurs qui ont différents outils qui ont des problèmes sur notre site, ça nous fait avancer. Voilà.
Bonjour.
Bonjour. Moi, ce n'est pas une question d'accessibilité, c'est une question au niveau du discours commercial.
Oui, moi, je ne suis pas commerciale, hein. Désolée.
Non, mais quand tu démarches...
voilà.
Tu démarches tes clients...
C'est ce que je disais, mais moi, je ne fonctionne pas pareil. Je fais du bouche à oreille.
Ouais.
Enfin, je ne suis pas commerciale, donc voilà, c'est le moyen le plus simple.
Ouais. Ce que je voulais demander, en fait, c'était... tu dis que... Donc, éduquer le client, je pense que c'est important aussi. Tu dis que tu essayes d'argumenter au niveau notamment des standards web, tu respectes,
ouais.
que tu expliques la...
J'explique ma démarche.
Oui, la démarche. Donc là, c'est vraiment une question au niveau du discours commercial. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose à souligner?
Oui.
Est-ce que tu crois que le client a quelque chose... Est-ce qu'il trouve ça important? Il a besoin de savoir que tu développes selon les standards, en XHTML strict ou pas,
etc. Parce que c'est une preuve de qualité.
Ok.
c'est clair. Les handicapés, c'est 15% des internautes.
Oui, mais ça, c'est...
Voilà. Bah oui, mais...
Ça, c'est voilà. L'accessibilité, c'est vraiment au niveau des standards.
Ah, des mais même les standards. Bah, tu mets en avant le fait que la maintenance se fait plus facilement, que tu gagnes du temps, un temps énorme.
Oui, enfin,
donc, c'est un gage de qualité, les standards.
Oui, non, pour, c'est pour pas le modérateur, mais pas, peut-être que le client, c'est...
Bah, le enfin, bah,
son
si,
site
le...
marche très bien, que son site soit pas cher à maintenir et que tout fonctionne bien pour un public pour personne.
Le client, ce qui l'intéresse, c'est de payer le moins cher, mm-hmm. Non?
Si, si, bien sûr.
Bah voilà, donc si tu lui parles des standards, si tu lui dis que bon, tu lui fais un site qui va durer 10 ans et que s'il y a une modification à faire, ça va pas lui coûter cher, il sera d'accord.
Ok, ça va, je comprends le principe, mais c'est là.
Ouais, mais j'ai... Non? Il y a un truc qui...
j'arrive pas peut-être à bien formuler ma question, mais le fait que son site va durer 10 ans, etc., tout ça est très bien, que ce soit facile à maintenir, c'est évidemment un argument commercial positif. La question, c'est vraiment, est-ce que argumenter selon les standards, que lui dire que...
Est-ce que tu es obligé de lui dire que tu développes en XHTML, CSS?
Oui, c'est ça. C'est un peu ça la question. Moi, je trouve que...
Tu n'es pas obligé de lui dire, mais moi, je pense que c'est intéressant de l'impliquer dans la conception. Voilà, moi j'implique mon client dans la conception.
Ok, ça va. Ok, merci beaucoup.
Voilà, il participe, il n'y a pas de raison.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais faire un complément, un commentaire en fait sur ce qui se disait avant ça. Puis j'aimerais profiter du fait que j'ai le micro pour monopoliser une seconde de plus, puis aussi commenter là-dessus. Ce que je voulais dire par rapport à Jazz en fait, c'était que... le piège, c'est souvent de considérer Jazz comme étant la solution pour savoir comment les personnes handicapées utilisent le web.
Mais il y en a d'autres.
Quand on prend un peu de recul, c'est exactement la même approche que de dire qu'il y a un navigateur dans lequel on teste, et si ça passe là, ça passe partout. Donc, on le fait avec Internet Explorer, on sait ce que ça donne. Donc, d'avoir la même approche avec Jazz, c'est d'avoir une vision aussi réductrice de la complexité de l'interprétation.
C'est évident.
Puis, pour essayer de compléter aussi la réponse de monsieur en avant, je suis dans une situation assez similaire à la tienne par rapport aux relations clients, parce que ma boîte, on n'est que quatre, donc on fait tout du café jusqu'à la vente. Généralement, on se rend compte assez rapidement si ça vaut la peine d'essayer d'évangéliser un client, de lui enseigner l'intérêt de comprendre nos bidules techniques à nous. Puis souvent, on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'est XHTML ou pourquoi on a choisi telle personne d'HTML plutôt que telle autre. Ça se traduit par les résultats concrets une fois que le site est produit.
Oui, c'est pour ça que je disais, il faut lui montrer la finalité et pas forcément lui expliquer, ce qu'est XHTML. Il s'en fout. Mais le but, c'est qu'il gagne, il est gagnant. En utilisant cette technologie, il est gagnant.
Les résultats en parlent par eux-mêmes. Le seul problème étant que pour le démontrer, on doit obtenir le projet et le faire.
Oui.
Donc, tant aussi longtemps que ce n'est pas fait, évidemment, on ne peut pas rien prouver. Donc, c'est une preuve qu'on dit ça. C'est une démonstration qu'on peut faire uniquement une fois que le projet est complété.
Je n'ai pas parlé de référencement naturel. C'est-à-dire qu'en ayant un contenu clair, bien structuré, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Si votre site est bien structuré, Google ira plus rapidement, trouvera plus rapidement les informations, donc le référencera un peu mieux. Je pense à ça.
Alors, on a encore deux questions, je crois, Stéphane.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le jeune homme devant sur l'aspect commercial. Je suis freelance aussi, j'ai la même démarche que toi en l'occurrence. Donc pour moi, c'est un critère commercial aussi, l'accessibilité et de faire des sites au dernier standard, même si c'est vrai que souvent ils s'en fichent. Mais c'est vrai que parfois, comme disait l'autre monsieur, faut d'abord obtenir le marché pour pouvoir mettre en place ce qu'on veut. Et j'ai un exemple où j'ai postulé à un appel d'offres et où bon, j'avais mis dans mes devis, je mets toujours une explication aussi sur ce que c'est, l'intérêt, etc. Et ils m'ont dit que ben non, ça ne les intéressait pas parce que de toute façon, ça touche 0,06% de la population, donc à moins que le prix soit 0,006% plus cher, sinon ils ne veulent pas. Alors seulement que je leur ai dit que ce n'était pas plus cher, que c'était une façon de fonctionner, enfin, ce n'est pas plus ou moins cher, c'est une méthode de travail. Mais du coup, non, ils ont pensé que forcément, je faisais ça plus cher. Donc voilà, c'est vrai qu'après, je suis d'accord sur le principe, il faut savoir dire non. Enfin, voilà,
en même temps, tu réponds à un contexte bien particulier, c'est une appel d'offres.
Ouais.
C'est pas tout à fait la même chose que démarcher un client lambda.
Oui, c'est sûr.
Les appels d'offres.
Mais bon,
les freelance sont
c'est intéressant de voir le raisonnement que certaines personnes peuvent avoir, complètement aberrant. En général, je dis surtout, un des arguments que je peux utiliser commercialement, c'est que c'est moderne. Voilà, c'est le futur, les standards. On ne peut pas continuer comme ça. Si on veut pouvoir évoluer, avoir quelque chose de dernier cri, il faut que ce soit accessible. Donc c'est un argument comme un autre.
On se débrouille un peu comme on peut, hein,
voilà,
des fois.
Mais bon, en plus, je pense que c'est pas faux. tout le monde n'a pas la chance de pouvoir discuter, dialoguer avec... de voir comment elle j'ose ou d'utiliser ou de voir comment ça fonctionne. J'invite vraiment les gens. Enfin, moi, je suis allée au Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie et c'est vraiment... très simple d'aller voir et de demander un rendez-vous et discuter avec des utilisateurs directement et de voir comment ça fonctionne réellement. Donc il suffit de les appeler. Et j'avais une question sur les centres. Oh. Je suis trop loin. Tu as parlé de centre de rééducation pour les tests. Voilà. Qu'est-ce que c'est ?
Un centre, moi je connais parce que j'ai eu l'occasion de les fréquenter très souvent. Pas pour moi, mais pour la famille, voilà. Et en plus, j'en ai un juste à côté de chez moi. J'habite Lorient et il y a CarePap. CarePap, c'est un centre de rééducation qui récupère les handicapés des accidents, essentiellement. Ils seraient intéressés. Donc, il faut que je fasse 2 ou 3 personnes à voir.
Alors, encore une question ici. Juste une chose, on a oublié de vous dire que ce serait sympa de vous présenter avant de parler. Pardon, on percute un pétard.
Bonjour. Arnaud Guéras, développeur front office. Je voulais parler au sujet d'Okawa.
Oui.
J'ai remarqué qu'Okawa validait la page au niveau de la source DOM,
ouais,
c'est-à-dire la source générée via JS.
Ouais.
Et je voulais savoir s'il était quand même très important de se soucier de l'accessibilité de la page au niveau DOM de la page, et non HTML.
Ben moi, je pense que oui. Il y en a qui ne sont pas d'accord.
Alors, une toute petite réponse rapide. Moi, je travaille avec Okawa aussi, forcément. Le concepteur d'Okawa est là-bas, donc vous aurez l'occasion d'y en parler. En gros, valider ce qui est généré par le DOM, c'est aussi important que valider le HTML avant que le JavaScript n'agisse. Il faut valider les deux. Donc, au final, ce qui est présenté à votre client, dans 99% des cas, à part les moteurs de recherche, moi, je n'ai jamais trouvé un utilisateur qui désactivait le JavaScript. Donc, on est obligé de le tester aussi parce qu'on travaille sur des sites notamment qui vont commencer à s'ajaxifier, etc., etc. Donc, de toute façon, il faut qu'on puisse tester le HTML résultant aussi.
C'est pas une question. Bonjour, Laurent Grabiel. Bonjour de Toulouse. Juste un petit détail concernant l'argument commercial. Pour moi, le seul argument, enfin, pas le seul, si le client n'est pas sensible à l'éthique. Si le client n'est pas sensible au fait que ça peut lui apporter 15% d'internautes en plus, ceux qui sont en position de handicap, il y a un argument qui est très simple, c'est la pérennité de son investissement, surtout en tant qu'indépendant. Ça veut dire, je suis un indépendant, mais par contre, je travaille avec un produit normé, en respectant des standards, mais si moi je me plante, mon projet, vous pouvez le faire reprendre par n'importe qui d'autre après.
Oui, je voulais intervenir exactement sur la même chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais rejoindre un peu ce que disait Samuel tout à l'heure. C'est qu'on a beau faire dans les standards. Moi, je grenouille dans les standards depuis 15 ans maintenant. Je suis quand même un des auteurs d'HTML4. Je commence à connaître le sujet. Si la personne qui a fait votre application s'en va et que votre application est grosse, vous êtes en conformité avec les standards, vous êtes en sable quand même. Donc l'argument principal, je ne suis pas sûr que ce soit la pérennité de l'équipe, on est d'accord, la pérennité de l'application, je ne suis pas sûr. L'argument principal, c'est l'interopérabilité. Si vous voulez que votre application cause avec quoi que ce soit d'autre, et en particulier avec JAWS, vous avez intérêt à être conforme aux standards. Parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas compréhensible par l'appli tierce que vous voulez intégrer dans votre système, bah, vous êtes dedans. Ça, c'est le seul argument réellement intéressant. Vous voulez vous intégrer avec vignettes, vous avez besoin d'être conforme au standard. Vous avez besoin de vous intégrer avec Documento, vous avez besoin d'être conforme au standard. Vous avez besoin de vous intégrer avec un moteur de recherche, vous avez besoin d'être conforme au standard. Là, oui.
Bonjour, Mathieu Van Dries, du groupe de presse IPM. Lors de votre exposé, vous avez dit que parfois le décideur voulait des choses qui allaient à l'encontre de ce que cherchait l'utilisateur. Et vous avez ensuite dit que l'utilisateur devenait de plus en plus décideur.
Oui.
Est-ce qu'on ne risque pas d'aller de plus en plus avec les nouvelles technologies, style Ajax, vers un paradoxe où l'utilisateur souhaite des choses qui finalement vont en... contre sa facilité d'utilisation, et est-ce qu'il y a une bonne pratique ou une barrière à mettre entre le fait de vouloir donner ce que cherche l'utilisateur et vouloir lui donner ce qui est bien pour lui, et aussi dans le cas où est-ce que l'utilisateur lambda est prêt à utiliser une technologie, mais si elle est mauvaise pour des utilisateurs, par exemple de Jobs, comment gérer ce problème?
J'ai pas de réponse parce que j'ai jamais été confrontée à cette réflexion-là, à cet utilisateur-décideur.
Il va y avoir une conférence consacrée à Ajax et à l'accessibilité, ce sera peut-être le moment d'en discuter. Bon, il est sûr qu'il faut prévoir des couches qui soient accessibles pour tous les niveaux. On parle essentiellement de JAWS, mais on a de plus en plus d'utilisation de périphériques mobiles. Et il faut que les applications restent accessibles à partir des périphériques mobiles qui n'intègrent pas forcément des moteurs JavaScript. Voilà.
Ok, je remercie tout le monde. On va couper. Très rapide alors. Ouais.
Bonjour, Claudine Verdier, Binder Magnétique. Alors moi, j'ai une double casquette en quelque sorte, parce que je m'amuse à faire des sites moi-même, enfin je bidouille. Et d'un autre côté, je travaille dans une entreprise qui a un site qui a 3 ans maintenant, qui est complètement en dehors des standards, qui n'est même pas balisé H1, H2, H3. C'est une vraie catastrophe d'un point de vue technique. D'un point de vue référencement, on a la chance d'avoir un nom de domaine qui est très ancien, des liens avec le gouvernement, EDU, etc. Donc il est bien placé. Et on va le refaire, ce site. Et moi, je suis en train de convaincre mes patrons de faire ça dans les normes. Et essentiellement pour le référencement, quand même. Bien que le site soit bien référencé, je pense que c'est un argument. J'ai affaire à des gens qui n'y comprennent rien, qui n'y connaissent rien. Alors je leur fais voir les codes sources, des choses comme ça. Et en fait, l'argument que je peux trouver, c'est ça. C'est le retour sur investissement. On va retrouver votre site facilement. Vous aurez plus de clients de cette façon-là, de cette façon-là. Mmh. Nous, on est dans l'industrie. On a des clients qui vont chercher des docs, qui vont chercher des plans, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est peut-être assez rare qu'on ait des clients qui aient des problèmes d'accessibilité, encore qu'on peut en avoir. Mais de toute façon, si on leur dit que ça sera effectivement 0,06% ou quelque chose comme ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut récupérer après comme contre-argument du client. Donc je pense que l'aspect référencement est aussi important. Voilà.
Juste pour répondre, vu que Myriam a pas l'air de prendre la parole un petit peu. Les handicapés au sens large, hein, je parle des malvoyants, mais je parle aussi de la personne qui a un petit peu de difficulté, de dyslexie, n'importe quoi. Vous en trouverez chez vos clients aussi, dans l'industrie aussi. Il y en a dans le public, il y en a pas mal. Il y en a dans le monde n'importe où. Et du coup, ils se retrouvent aussi dans l'industrie, dans à peu près les mêmes proportions. Et du coup, vous aurez plus que 0,06%. Ça se chiffre plutôt proche de 10% si on prend accessibilité au sens large que de 1%. Donc ça, c'est un réel argument. C'est pas quelque chose de très limité, l'accessibilité, ça concerne vraiment tout le monde.
Personnellement, je suis déficiente visuelle.
Voilà. Donc, on a fini avec les questions. Je vais inviter Pascal Soir à nous parler du RGAA. Il va nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et pendant qu'il s'installe, j'invite Myriam à me désigner 2 personnes qui ont répondu aux questions.
Merci.
Et donc, on a 2 livres à offrir de chez Erol à ceux qui ont répondu aux questions de cette conférence. Et la même chose pour toutes les suivantes. Alors, je vous donne quelques titres maintenant, vous aurez les autres à la suite. On a Design Web, utiliser les standards, de Jeffrey Zelman, je pense que les techniciens connaissent.